J'ai eu quelques petits problèmes pour dater les films. Alors ce matin, on a un peu regardé dans le train comment on pouvait les dater. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des petites erreurs aussi parfois dans la base Sérimès. Donc ça, je le dis, si c'est faux, voilà, c'est ce qu'on a réussi à bricoler ce matin dans le train. Bon, il y a des films où c'est évident que c'est des années 60, ça se voit, bon, c'est pas trop un problème. Alors je n'ai pris que les films qui sont dans la base Sérimès. Donc sur ce qu'on peut appeler les spécificités féminines, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a 11 films. Et dans ces 11 films, j'en ai pris 8 qui m'intéressaient plus particulièrement parce que d'une part, la femme était plus présente et parce qu'on peut vraiment trouver des représentations à la fois des femmes et à la fois du rôle du médecin, rôle très très évolutif comme on vient déjà de le voir et puis donc on le verra encore. Dans tous ces films, il s'agit de faire accepter une nouveauté. Alors, ce que j'entends par nouveauté, ça peut être un traitement, par exemple de l'ostéoporose. Ça peut être un comportement, par exemple comment accoucher de la meilleure manière possible. Ça peut être de la technologie, par exemple l'échographie, pendant la grossesse. Donc, on a toujours un problème qui est présenté ou qui est même parfois construit. On a aussi une autorité médicale à chaque fois, et qui joue évidemment un rôle de légitimation et de crédibilisation à la fois du problème et des solutions présentées. Mais ce qu'on va voir, c'est que cette autorité va se transformer au fur et à mesure qu'on avancera dans le temps. Alors j'ai appelé ça spécificité féminine avec des guillemets, parce qu'évidemment le terme, on ne le retrouve pas dans les films. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui fasse un petit peu le lien entre les différents problèmes évoqués. Pourquoi spécificité féminine? Tout d'abord, l'important, à mon sens, dans ces films-là, ce n'est pas que le fait qu'il y ait des problèmes censément spécifiquement féminins. Ce n'est pas tellement ça, mais qu'ils soient conçus comme un problème. C'est-à-dire, bon, effectivement, bah, les femmes ont toujours accouché, les femmes ont toujours eu la ménopause, les femmes ont toujours, etc., etc. Donc, que ce soit conçu comme un problème et un problème auquel on va apporter donc des solutions. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bah, on peut avancer que, effectivement, si la recherche et les traitements ont évolué, ils ont aussi fait changer la perception de ces problèmes. Parfois, ils les ont constitués en problème. Et enfin, troisièmement, ce sont des problématiques, des problématisations qui sont essentiellement féminines. Même si, par exemple, dans le cas de la stérilité, il peut s'agir du couple. C'est la femme qui va porter la responsabilité du problème et c'est aussi la femme qui va consulter. C'est pas l'homme. Même si on le voit apparaître un petit peu, mais j'y reviendrai. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce terme de spécificité féminine. C'est pas simplement le sens physiologique ou psychologique, hein, on verra qu'il y a beaucoup de psychologie qui appartiendrait qu'à la femme, mais au sens d'une responsabilité et d'une prise en charge du problème et de la parole par rapport au problème. Alors, quels sont ces problèmes, qui ne sont en fait pas forcément des problèmes, mais dans les films, ils sont des problèmes. Ils sont évoqués sous les termes de, je cite, bouleversement de la vie d'une femme, changement, etc., etc. Donc on peut les classer dans les trois états suivants, l'adolescence, donc avec la possibilité de procréer ou non, la grossesse et son dysfonctionnement, donc la stérilité ou l'infertilité pour prendre un terme plus actuel, et la ménopause et les troubles, là encore avec plein de guillemets, qui l'accompagnent, et notamment l'ostéoporose. Donc les films que j'ai choisis sont les suivants, donc voilà, pour la datation, il y a des points d'interrogation, etc. Alors, tout d'abord, trois films sur alors, ce que j'appelle le contrôle de la maternité ou de la non-maternité. C'est-à-dire contrôle de la maternité parce qu'on va être dans une phase de monitoring de la maternité. Hein, on commence à passer dans cette époque-là, la non-maternité, parce que j'ai rajouté donc un film sur la contraception moderne qui me semblait bien aller avec les deux précédents. Donc, il s'agit de Prélude à la maternité. Un enfant va naître et la contraception moderne. Le deuxième thème, c'est les troubles de la ménopause, avec donc deux films des années 60 vraiment centrés sur l'ostéoporose. Un film des années 80 centré là encore sur l'ostéoporose, mais beaucoup plus spécialisé. Et enfin, un film beaucoup plus dans le vécu des femmes, etc. Donc, Le praticien à la femme de 50 ans, donc un film des années 80. Et enfin, le troisième thème, c'est l'infertilité. Là, je n'ai qu'un film, il est très tardif. Il date de 93. Donc, René ou le rendez-vous avec le temps. Donc, qui est un film assez particulier, j'y reviendrai. Donc, évidemment, des années 60 aux années 90, les films s'inscrivent dans des contextes socio-historiques en mutation et riches en innovations médicales dans ce domaine-là. Donc, moi, je n'ai pas le catalogue que Christian avait, mais je pense qu'on doit en avoir pas mal qui sont amassés, justement, dans cette période-là sur ces thématiques. Donc, ces films, ces thématiques, et autant que l'époque, vont fournir des représentations qui vont être véhiculées par les films. C'est la représentation du problème, représentation de la médecine, représentation du champ de compétences de la médecine, et on va voir qu'il va s'élargir, de la forme de la pratique, et bien sûr, représentation de la femme. Alors, pour le dire rapidement, dans les années 60, la médecine, dans les films que j'ai, en tout cas, la médecine était représentée comme une autorité donc indiscutable. Donc voilà, je vais donner un petit exemple. Voilà, la femme, un objet de recherche qui n'apparaît pas d'ailleurs dans les films. On ne voit pas de femme physiquement, on voit des os, on voit des schémas, etc. Ce sont deux films qui concernent l'ostéoporose, qui correspondent également à un moment où pas mal de découvertes ont été faites sur ce terrain-là. Dans les années 70-80, en ce qui concerne les troubles de la ménopause, c'est aussi un moment où les femmes commencent vraiment à apparaître dans l'espace public. Contrairement à ce que montre le film, mais en tout cas, c'est un moment où les femmes commencent vraiment à apparaître dans l'espace public. On a aussi un vieillissement de la population qui commence à être pris en compte, qui commence à émerger comme un problème, dû à l'amélioration des conditions de vie. Et c'est aussi concomitant avec le développement de tout un ensemble d'activités pour les seniors, donc pour les femmes, l'université du troisième âge, comme on disait, les clubs féminins, etc., etc. Ça commence vraiment à se développer pour aboutir à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est une véritable industrie du loisir des seniors. Dans le film « Le praticien et la femme, face à la femme de 50 ans », on voit un médecin qui traite, mais qui écoute. C'est-à-dire, dans les films des années 60, il parle, il est professoral. Dans ce film-là, qui est plus tardif, il va écouter. Dans ces années 70-80, on voit aussi se généraliser donc, la préparation à l'accouchement, quelque chose qui n'existait pas vraiment ou de manière épisodique auparavant, donc dans les hôpitaux. C'est aussi le moment où on a une routinisation des techniques de monitoring de la grossesse, c'est-à-dire notamment l'échographie qui prend une large part dans un de ces films. Dans ces films sur l'accouchement, le discours médical est informatif et pédagogique, et c'est le même discours qu'on va retrouver dans le film sur la contraception, qui date donc des années 70. Les années 90, alors j'ai qu'un film, donc il faut vraiment nuancer le propos, je ne dis pas que tout est comme ça, mais par rapport à cette problématique de l'infertilité, c'est une problématique qui s'est installée, qui commence vraiment à s'installer dans l'espace public, alors qu'elle était jusque-là un petit peu dans la sphère privée, c'est-à-dire on n'en parlait pas trop, etc. Alors bon, il y a tout un ensemble de choses. Il y a Louise Brooks et Amandine, les bébés éprouvettes qui maintenant sont presque adolescentes dans ces années-là, donc qui ont été très médiatisées, donc qui ont porté effectivement cette problématique dans l'espace public. Il y a des traitements disponibles et on commence effectivement dans des unités de soins à suivre les parents infertiles. Donc aussi à essayer de développer un discours un peu psychologique par rapport à ces personnes. Donc le praticien qu'on va retrouver mis en scène dans René va plutôt recontextualiser le problème d'une femme dans sa vie, dans son histoire de vie. C'est encore assez différent. Donc évidemment, le rôle du médecin évolue. Donc d'abord, on a un ton professoral, l'autorité des progrès de la recherche médicale dans cette première période. Ensuite, on a dans la deuxième période, donc 70-80, beaucoup de médecins en situation, qu'on voit communiquer, qu'on voit conseiller, qu'on voit rassurer c'est-à-dire un rôle de conseil, un rôle de réassurance, etc. Donc, par exemple, le médecin au téléphone, c'est dans la contraception moderne, les femmes lui posent plein de questions du genre « Oui, mais le stérilet, est-ce qu'il ne va pas me poser des gros problèmes ?»« Non, il n'y a aucun risque, madame, etc. etc. » Donc, on le voit vraiment disponible et vraiment là pour ses patientes. Et enfin, il devient quasiment un confident dans la troisième période, donc dans ce film-là, et un confident qui, effectivement, se pose énormément de questions, comme vous le voyez dans le dialogue donc entre le médecin et Marie-Josée Natte, puisque là, c'est Marie-Josée Natte qu'on voit de dos. Alors, pour plus de facilité, je vais prendre donc les films par ces thématiques, donc procréation ou non-procréation, accouchement, ménopause, stérilité. Bon, je peux repasser après les slides et puis je vous passerai un petit extrait après si on a encore le temps. Donc, premier thème, contrôler et apprendre la maternité ou la non-maternité. Donc, au contraire des deux autres thèmes, hein, les troubles de la ménopause et l'infertilité, il ne s'agit pas vraiment d'un dysfonctionnement ou d'un trouble. Là, c'est quelque chose de naturel et quelque chose qui doit se passer le mieux possible. La problématisation est faite autour de ça. Comment faire pour que l'accouchement se passe dans les meilleures conditions possibles? Comment faire pour que les jeunes filles puissent maîtriser leur capacité de procréation, c'est-à-dire avec la contraception? Donc, voilà, c'est un problème qui n'est pas un problème particulièrement dramatique comme le dernier cas, quoi, celui de l'infertilité. J'ai retenu donc les films Prélude à la maternité, Un enfant va naître. Donc, c'est deux films très homogènes, commandités par Nestlé, tous les deux. Alors là, c'est dommage que M. Duvivier ne soit plus là, parce que ce n'est pas une firme pharmaceutique, c'est une firme alimentaire. Donc, c'est des films qui ne vont pas, justement, on ne va pas parler de traitement, on va parler de comportement. C'est la solution, c'est un comportement. Donc, des films, vraiment, ils se ressemblent. Hein. L'un est la continuation de l'autre, si on veut. Le personnel médical est très représenté, le contexte est l'hôpital. C'est-à-dire, les deux films sont tournés dans des services de gynéco-obstétrique et réalisés en partenariat avec tout un ensemble de médecins et de sages-femmes. Ce qui interroge d'emblée, puisque ben, on sait bien qu'une grande partie du vécu de la grossesse se déroule en dehors de l'hôpital, et heureusement, dans des cas où il n'y a pas de problème, justement, comme les cas qui sont présentés dans ce film-là. Or, dans ces films, on ne voit que la dimension hospitalière de la grossesse et de l'accouchement. Par ailleurs, il y a largement question d'apprendre. Dans le film « Un enfant va naître », c'est vraiment « on apprend », alors je cite, « on apprendre à accoucher, se préparer à accoucher » ou encore « il faut des connaissances, des techniques, un entraînement pour accoucher », etc. On est vraiment dans l'apprentissage, dans le pédagogique. Donc les médecins et les sages-femmes revêtent là vraiment un rôle d'enseignant. Évidemment, beaucoup plus technique pour le médecin et beaucoup plus accompagnateur pour la sage-femme. La partition homme-femme, elle est très très nette aussi. Les trois films, alors avec celui sur la contraception, ont en commun de se débarrasser des idées préconçues avant de délivrer une vraie information. Donc, c'est le film qui informe. Et en fait, effectivement, on se rend compte que les femmes ne sont pas ignorantes avant d'être enceintes ou avant d'utiliser un moyen de contraception. Elles ont accès au quotidien à tout un ensemble de savoirs, hein, des savoirs médicaux, mais aussi populaires, mais aussi symboliques, ne serait-ce que le savoir de leur mère, de leur grand-mère, etc., qui est passé par là, évidemment, par l'accouchement avant elle. Et donc par aussi différents conseils comportementaux. Cependant, ces savoirs et comportements ne sont pas du tout en phase avec les connaissances du corps humain dans les années 70-80. Donc ces films vont faire place au vrai savoir et vont discréditer ce qu'ils appellent les préjugés, les racontars. Alors dans le film Un enfant, on trouve des exemples particulièrement frappants de ce processus de discrédit. Ils appellent ça les fausses idées qui circulent sur l'accouchement, ça, je les cite. Tout d'abord, le film insiste sur la naissance des idées préconçues dans les histoires enfantines, donc là, le petit chaperon rouge, ou alors on entend deux jeunes garçons qui disent « les filles, ça pisse par terre », etc. Donc voilà, ça s'est tourné au ridicule, au risible, etc. On discrédite ce savoir-là, ces idées-là. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que j'ai pas vu ça dans d'autres films médicaux. On fait un micro-trottoir sur les idées préconçues donc, qu'ont les hommes sur la maternité. Alors, on entend des hommes, là je n'ai mis que deux exemples, on entend des hommes proférer des énormités au micro d'un intervieweur. Et évidemment, là encore, il s'agit de discréditer tout ce savoir, toutes ces idées préconçues, tous ces racontars, pour faire place nette au vrai savoir sur la maternité. S'ensuit donc la conclusion évidente. Depuis toujours, la femme était soumise aux paroles traditionnelles, les racontars, donc ceux des hommes en particulier. Bref, si être enceinte et accoucher, ça s'apprend, cet apprentissage doit se faire via du personnel formé. Et du coup, c'est une crédibilisation des sages-femmes et des médecins donc, qui prennent en charge l'accouchement. Le même processus est à l'œuvre donc, de discrédit dans la contraception moderne. L'idée est donc là de contribuer à faire accepter et utiliser l'innovation, car dans les années 70, la pilule et le stérilet, notamment, étaient encore des innovations. Donc on n'avait pas le témoignage des mères et des grands-mères sur la pilule, par exemple, dans ces années-là. Donc voilà, il fallait faire accepter à des jeunes filles que ça pouvait être intéressant. Et ces jeunes filles, donc c'était un public qu'on voit un petit peu qu'on pensait être ignorant et craintif par rapport à ces technologies modernes. Donc j'ai des images de classe, hein, ça se passe dans une classe, etc. Donc ce qui sont assez intéressantes. Alors pour la contraception, il faut d'abord faire table rase des faux savoirs, ce qu'ils appellent les faux savoirs, c'est-à-dire les méthodes traditionnelles de contraception. Donc voilà, les appareils spécifiquement infaillibles, gnagnagna, gnagnagna, bon, ils disent bah, si c'est faillible, y compris effectivement les courbes de température, etc. Tout ça, ça marche pas souvent. Évidemment, il y a concurrence entre deux méthodes, la méthode moderne et la méthode traditionnelle. Donc le discrédit se fait via tout un ensemble de coupures de presse, hein, qui sont tout au début du film. Et comme elles sont très anciennes, ça discrédite d'un coup. C'est des vieilleries. Deuxième chose, ben, on va présenter le médecin comme une figure non seulement crédible, mais aussi fiable et disponible. Hein. C'est le fameux médecin qu'on a vu au téléphone tout à l'heure, donc qui est tout le temps là pour répondre aux patientes. Et il s'agit de discréditer aussi les critiques extramédicales. Alors ils disent eux-mêmes que ce sont des critiques extramédicales, donc sans expertise et hostiles. Alors bon, c'était effectivement tout ce qui touchait la contraception orale et la possibilité de contracter des cancers par rapport à cette pilule. Et donc, on nous met côte à côte, quasiment, pas dans le même plan, hein, mais dans des images successives, des coupures de presse, toujours apparemment les médias, c'est quand même un petit peu le mal dans ces films, et des ouvrages très sérieux de l'institution de recherche médicale, c'est-à-dire l'INSERM, qui disent bah, que finalement, non. Et la conclusion est simple encore, rappelons qu'aucun produit n'a été aussi longuement étudié quant à ses effets secondaires possibles que la pilule. Donc là encore, discrédit. En ce qui concerne le stérilet, donc récemment modernisé donc, par les innovations médicales, hein, on est passé à la troisième génération dans ces années-là, la décrédibilisation des préjugés s'appuie aussi sur un déni d'expertise, mais un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on va mettre en scène l'ignorance, donc du vivier, mais en scène l'ignorance. Bah, sous ces caractères assez ridicules, puisqu'on voit, bah, il y a deux personnages, notamment cette femme assez âgée, donc pas du tout concernée, en train, chez le coiffeur, en train de se faire la manucure, et qui dit, oh là là, moi, vous savez, je ne voudrais pas qu'on me pose un appareil dans la matrice, hein, ça pourrait la percer. Donc voilà, ce genre de discours est un discours décrédibilisé. D'ailleurs, après, on a une réunion de médecins qui explique que non, ça ne peut pas percer la matrice, hein, j'aime bien parce que le terme est très ancien, que ce n'est pas possible. Alors, une fois que le territoire est dégagé de tout préjugé, racontard, etc., on peut apprendre et on peut informer donc, sur la contraception moderne. Alors là aussi, j'ai un petit regret parce que je ne sais pas trop où étaient projetés les deux films sur l'accouchement. Bon, je pense qu'elles étaient projetées à des sages-femmes, à des médecins, mais je me demande, vu la manière dont ils sont construits, s'ils n'ont pas été projetés peut-être tout au début des séances de relaxation dynamique, de préparation à l'accouchement aux jeunes mères. parce qu'il parle aux jeunes mères. Donc je ne sais pas, c'est une question que je vais lui poser, c'est une hypothèse, j'ai un petit peu cette impression. Alors dans ces deux films-là, on a deux ressorts, hein, l'émotionnel et le pédagogique rationnel. L'image va se charger de communiquer l'émotion. On a tout un ensemble, là encore, on a déjà vu des exemples de ces photos ou tableaux très esthétiques, de femmes enceintes nues, de futurs pères aimants qui mettent ses mains sur le ventre rond, de nouveau-nés avec leur mère, d'accouchement qui se passe très bien, d'allaitement, de gestes tendres, etc. Donc on va projeter, si mon hypothèse est juste, mais bon, ça marche aussi pour les médecins, les sages-femmes, on va projeter le public dans quelque chose d'idéal, qui doit arriver pour qu'ils se sentent investis. Alors évidemment, sur ce fond émotionnel, la présentation des nouveaux comportements à adopter et des nouvelles techniques à accepter paraît presque naturelle, parce qu'il va sembler évident de vouloir que l'accouchement se passe au mieux, avec le moins de douleurs possible, et les solutions proposées vont paraître évidentes. Alors que ce soit effectivement la préparation à l'accouchement, la relaxation dynamique qui est mise en scène dans ces films, ou les techniques, comme l'échographie ou la péridurale. Donc là, vous avez l'exemple avec l'échographie. Alors l'échographie, c'est du monitoring, c'est très technique, mais le film va la mettre en scène de manière assez démonstrative et spectaculaire. Je pense que c'est des images qu'on ne voyait pas trop encore à l'époque. Je pense que c'est des images assez récentes, tout du moins avec effectivement le médecin, la femme et l'écran. Et on le resitue dans le quotidien de la femme, puisque bon, le médecin va expliquer tout un ensemble de choses. Bon, elle est là, elle écoute, elle sourit, bon, je pense qu'elle pense à son bébé. Puis tout d'un coup, elle dit bah, « si on voyait le sexe, je serais partante ». C'est-à-dire, hop, on replonge la technique qui se passe dans l'hôpital, qui se déroule dans l'hôpital, dans le monde de ce que la femme veut savoir, c'est-à-dire dans son monde quotidien. On la rapproche d'elle. La médecine pédagogue, là encore une fois, est matérialisée dans le film Un enfant par une iconographie très didactique. Alors là, je vais peut-être vous passer aussi un extrait. Donc on explique que la douleur, finalement, c'est un réflexe conditionné. Un réflexe conditionné qu'on acquiert à force d'entendre des racontars. En gros, bon, c'est un peu plus compliqué que ça dans le film, mais voilà, pour aller vite. Donc on va projeter un dessin animé qui montre le chien de Pavlov qui est en train d'apprendre à saliver avec sa petite clochette. Et tout de suite après, on va montrer effectivement que si la femme apprend à respirer ou se met à lire, etc., l'idée de douleur va être effacée par cette autre idée qui vient parasiter, c'est-à-dire, donc là, voilà, si vous vous mettez à respirer à ce moment-là, par exemple, ça va effacer la douleur parce que ça va être un réflexe conditionné, etc., etc. Donc c'est très très intéressant et le dessin animé est lui-même très intéressant et très c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas encore vu jusqu'à présent, ce type de scénarisation. Et puis bon, c'est très osé quand même de venir avec Pavlov et son chien pour parler d'accouchement. Je trouve que le parallèle bon, est assez osé, mais bon, apparemment ça fonctionne. Donc, on a dans ces cas-là des mécanismes quand même assez classiques de vulgarisation, même si la forme est très innovante, c'est-à-dire qu'on a une mise en scène tout de même de l'autorité de la médecine, une décrédibilisation évidemment des discours dissonants, la spectacularisation et la recontextualisation de la technologie dans le quotidien des patientes, une réassurance via la présence de la sage-femme et l'accroche de l'attention par l'émotionnel. Tout ça, c'est très classique dans la vulgarisation. Passons maintenant au deuxième thème, les troubles de la ménopause. Et là, il ne s'agit plus d'apprendre, mais il s'agit de les traiter. Donc, on a donc ces deux premiers films. Alors là, encore plus, beaucoup plus hétérogène, avec ces deux premiers films très, très, très précoces, hein, des années 60, qui sont courts. C'est des films de 7 à 8 minutes, où quelqu'un vient expliquer ce qu'est l'ostéoporose et ce que pourrait être un traitement. Alors, c'est assez drôle, je n'ai pas les dates exactes, mais c'est deux films qui sont visiblement très proches au niveau des années, et chacun des médecins a un autre traitement à proposer. Donc, c'est assez intéressant aussi sur ce plan-là. Attention, ce n'est pas un médicament, c'est un traitement. Donc là, oui, vraiment classique, on a un ton professoral, un discours sobre, c'est un problème médical qui sera résolu grâce à des traitements médicaux. Dans le film des années 80, c'est-à-dire l'ostéoporose diagnostic et traitement, on a un discours encore beaucoup plus technique, c'est-à-dire qui est porté par les avancées de la recherche. Et on va vraiment présenter la recherche. Alors, je pense, là encore, je ne peux pas demander, je pense que ce film est destiné à un public plus spécialisé, c'est-à-dire pas les médecins praticiens, mais des médecins plus spécialisés, parce que le discours, bon, il faut vraiment le comprendre. Enfin, moi, je n'ai pas tout compris, donc pas grand-chose même. Heureusement qu'il y avait les dessins animés pour m'aider à comprendre, comme quoi la vulgarisation, ça fonctionne quand même. Donc, ces médecins, il faut les convaincre qu'il y a un problème. C'est assez intéressant. Et donc, les premières images, justement, nous montrent... Et alors là, on a encore une fois ce croisement entre une scénarisation et un film très, finalement, très médical. Nous montre une vieille dame en train de gravir un escalier avec difficulté, une jogger qui passe à côté comme une flèche. Et donc, on voit effectivement qu'il y a un problème. Le discours en voix off montre que ce problème n'a pas été vraiment pris en charge. Mais par contre, qu'il faut qu'il le soit. Pourquoi ? Parce que la population vieillit. Et donc, une large frange de la population va être touchée. Donc, ça va devenir un problème de santé publique. Donc là, le message, c'est prenez cette affection en compte. C'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important. Et on va vous expliquer comment on peut traiter, analyser, diagnostiquer et traiter ces problèmes-là. C'est un film en deux parties, diagnostic et traitement. Contrairement au film des années 60, on n'a pas de professeur. Donc c'est le film, l'autorité du médical est portée par les images, par des schémas, par des diagrammes, par quelques images effectivement de chercheurs et surtout par des images de synthèse et du film d'animation. Oups, pardon. Je passe un petit peu rapidement. J'avais oublié de vous dire que pourquoi l'ostéoporose ? Parce que l'ostéoporose est complètement reliée à la ménopause dans ces films-là et devient un problème complètement, spécifiquement féminin, comme le montre cette démonstration qui dure assez longtemps dans le film. Donc voilà, je trouvais le schéma assez amusant. On voit le pauvre monsieur qui est poussé en dehors, alors que lui aussi peut être touché. Donc voilà mes images. Alors voilà, j'ai fait un petit échantillonnage de ce qu'on peut trouver comme type d'image. Donc effectivement, des chercheurs au travail ou des personnes en train de diagnostiquer, mais ne parlent pas. On les voit toujours de dos ou presque de dos. On a des schémas. Hein, là, c'est un schéma très très intéressant. On a des schémas sur fond d'imagerie, effectivement des os, etc. Ce sont des cellules d'os. On a des images effectivement d'appareils qui pour diagnostiquer la maladie. On a effectivement des imageries par sonorité, machin, je ne sais plus, voilà, qui sont assez modernes. Et on a nos petits dessins animés. Alors bon, moi, ceux-là m'ont fait énormément penser aux petits jeux Pac-Man. D'ailleurs, on les voit manger comme ça. Et il se trouve que c'est un peu les mêmes années. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès pour attirer l'attention justement sur la pathologie. C'est tout à fait possible que ce soit quelque chose qui a été fait exprès. Et je vais finir donc ce thème sur le film Le praticien et la femme de 50 ans, qui à mon sens est le plus intéressant par rapport aux représentations de la femme. Contrairement au précédent, on ne centre pas le problème. On ne centre pas le problème sur l'ostéoporose. C'est-à-dire on va parler de tout ce qui arrive à cette femme de 50 ans, c'est-à-dire aux alentours de la ménopause, et vraiment à tout le malaise qu'il y a autour de ça. Évidemment, on va un petit peu le saucissonner, mais on ne va pas centrer sur un problème en particulier. C'est un film donc beaucoup moins technique, et c'est un film qui est basé sur des portraits de femmes et des témoignages. C'est-à-dire, quasiment deux tiers du film, c'est du témoignage. On entend des femmes qui expliquent effectivement leurs problèmes et ensuite qui expliquent comment elles vont mieux après traitement. On a un seul médecin, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est un mal qui est pluriel, hein, qui est indéfinissable, même dans le film, hein, je cite, « Tout au long de sa vie, la femme est soumise à des événements physiologiques, puberté, cycle menstruel, grossesse, événements qui peuvent s'accompagner de perturbations psychologiques, on y est. » Celles de la ménopause sont les plus frappantes car elles correspondent à l'arrêt de la vie génitale et au début du vieillissement. Il ne s'agit pas d'une maladie et pourtant la femme vient consulter. Donc je passe sur le fait que l'arrêt de la vie génitale, c'est un gros problème. Hein. On voit que des problèmes sont construits. Bon, voilà. Pour m'attarder sur cette dernière phrase, c'est-à-dire qu'on a un praticien qui va devoir comprendre ce qui arrive à cette femme qui ne sait pas elle-même ce qui est en train vraiment de lui arriver, qui va devoir composer avec une patiente qui a du mal à définir le problème et qui n'est pas malade et qui va devoir la gérer. C'est-à-dire que ce film, c'est vraiment un guide pour le praticien pour pouvoir être face à ces femmes donc, qui lui parlent de problèmes... Oui, je me dépêche. Qui lui parlent de problèmes très, très diffus. Alors, ce qu'on devine, c'est que donc ces films, hormis une exception, donc c'est La Dame en bleu, là, est composé de témoignages de femmes dont la vie a toujours été centrée sur le foyer. On voit qu'elles n'ont pas travaillé, à part l'une d'entre elles. Et désormais, leur maison est vide. Leur vie est vide, alors symptomatiquement, on a deux personnes qui parlent de leur panier à linge, qui était toujours plein, et puis qui, tout d'un coup, se retrouvent vides, un petit peu comme leur vie. Alors, ces peintures, et là, c'est intéressant, parce que ça fait beaucoup de liens à d'autres films, ces témoignages sont accompagnés de peintures et de photos qui disent la ménopause de l'intérieur. Si on veut, alors bon, c'est très déprimant. Voilà, j'en ai pris quatre. Quand elles vont mieux, on a des images, on le verra tout à l'heure, on a des images beaucoup plus guillorettes. Mais quand ça ne va pas bien, les images sont très déprimantes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va aider ce praticien à rentrer un petit peu dans la vie de cette femme, pour la comprendre de l'intérieur. C'est une ambiance qui est campée. Ce n'est pas l'autorité médicale, mais c'est cette ambiance qui va... donner la possibilité au médecin de se crédibiliser, d'être crédible, d'être fiable. Cependant, malgré donc, tous ces témoignages qui parlent plutôt de malaise, d'état d'âme, etc., bon, elles parlent un peu de bouffée de chaleur et tout, mais voilà, elles n'en parlent pas énormément, d'ostéoporose pas du tout. Eh bien, finalement, l'explication, elle est technique, elle est médicale. Et là encore, on a un procédé que j'ai trouvé très, très innovant et très intéressant. On voit bien que ça s'adresse à un praticien, un généraliste. On a une statue de femme dans un parc, et progressivement sur cette statue de femme va se détacher le problème sous forme de schéma animé. Donc on va voir effectivement l'hypophyse en crise, et progressivement on va voir tout ce qui ne fonctionne pas, et pourquoi ça ne fonctionne pas, et finalement on va voir quels sont les symptômes, donc boulimie, vertige, etc., etc. Et là, ça, c'est vraiment... si vous avez le temps de voir cette animation-là, elle est vraiment très, très intéressante, la manière dont elle est faite. Elle reprend beaucoup à la vulgarisation classique, mais tout en innovant sur le plan esthétique. Bien, donc, c'est quand même bien la médecine qui est convoquée pour soigner un malaise diffus avec des manifestations diverses. Et au vu donc du discours proféré par la voix off, donc vous avez un exemple ici, et des illustrations de vulgarisation, c'est parfaitement justifié. Enfin, voilà. Celui à qui s'adresse le film, à mon sens, moi, je suis pratiquement sûre que c'est le praticien généraliste, peut-être, moi, je ne pense pas que ce soit l'endocrinologue, puisque c'est pas assez technique. Est elle-même représentée donc, dans le film. C'est une femme d'un certain âge. Donc on voit là la proximité entre les patientes qui est marquée aussi par une ressemblance, hein, tout simplement, une ressemblance physique. Et cette femme va décliner les différents traitements suivant le cas. Hein. Donc on a une patiente qui fait de l'hypertension, on a une patiente qui n'a aucun problème, etc., etc. Donc elle donnera tantôt des hormones, tantôt des hormones et autre chose, tantôt... pas d'hormones et simplement un autre traitement. Et elle va aussi les écouter. Alors là, par exemple, c'est une femme qui vient la voir en disant « Oui, depuis votre traitement, j'ai trouvé la peinture et je m'éclate et je vais vous montrer mon œuvre. » Et puis, on voit très bien l'empathie aussi dont doit faire preuve donc ce médecin. Alors, cette liberté... Bon, toutes ces femmes vont dire « Voilà, je vais mieux, je me permets des choses, je vais au restaurant, moi j'ai trouvé un ami, moi je fais de la poterie, moi je fais de l'hébreu, etc. etc. » Mais on a l'impression qu'elles sont libérées, mais c'est une liberté quand même très très décorative. Quoi. C'est une liberté sans enjeu. C'est-à-dire si elles vont faire des études, c'est à l'université du troisième âge peut-être, c'est quelque chose qui ne va pas les propulser dans la vie publique. Et donc là, évidemment, on a des illustrations qui sont beaucoup plus sereines. Donc, je passe à mon troisième, parce que c'est quand même important, à mon troisième thème, plus sur... vous avez choisi une photo de ce film-là pour l'affiche. Donc, voilà. Alors, donc, dernière spécificité, cette infertilité. Donc, pour employer un mot plus propre aux années 90, donc la stérilité. On a un peu évolué aussi dans la compréhension et dans la manière de parler par rapport à ça. Dans ce cas, le problème, ça va être le dysfonctionnement. C'est-à-dire, on avait différents problèmes. Là, c'est vraiment le dysfonctionnement d'un processus qu'on accepte comme étant naturel. Et dans le film, on l'accepte comme étant naturel. Alors, c'est un film très particulier, donc commandité par Sandoz. C'est une fiction. C'est un film scénarisé, c'est-à-dire c'est la chronique de la vie d'une femme qui va parler effectivement à son médecin de sa stérilité, qui ne va pas vraiment lui demander quelque chose. Qu'on va voir chez elle, avec son compagnon, assez peu souvent, qu'on va voir en train de réfléchir, qu'on va voir en train de prendre conscience de tout un tas de traumatismes dans son enfance, qu'on va voir évoluer. On va la voir, par exemple, dans un magasin d'habits, en train d'essayer une robe de grossesse, etc., etc. Donc on la suit. Et il y a vraiment, c'est vraiment un scénario. Là, on n'est plus du tout dans le film médical classique. Qu'on a vraiment une rupture par rapport à ça. Donc c'est un film aussi qui met en scène donc des acteurs connus, c'est important peut-être à l'époque, donc comme Marie-Josée Natt. Il est long, il dure 48 minutes, ce qui est assez exceptionnel dans ces films-là. C'est un film où on va retrouver toute sa dimension onirique, qui est très très présente. Hein. Le rêve, c'est un signal que quelque chose ne va pas. Et le rêve, c'est aussi une remédiation. C'est via le rêve que finalement elle va aussi devenir enceinte, puisqu'elle le film se finit comme ça. Donc, c'est un petit peu, par rapport au film précédent, il y a un petit peu la même idée. On va guider le praticien face à quelqu'un qui est complètement perdu, parce qu'elle est complètement perdue. Dans un face-à-face, qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec cette femme qui est là, qui est perdue dans ce qui lui arrive. Revenons rapidement à la figure du médecin parce que je la trouve très très intéressante. Alors de manière tout à fait non classique, il se remet tout le temps en cause, hein, on l'a déjà vu au début, et il se construit au contact de ses patientes. Alors il n'y a pas que René, il y a Cécilia, donc Marie-Josée Natt, qui est une femme plus âgée aux abords de la ménopause, dont on apprend qu'elle a abandonné un enfant et qu'elle a pratiqué un avortement, etc. Donc il se construit par rapport à elle, et une troisième femme qu'on voit pas en face de lui, qui est Ève, qui est une mère, du coup, épanouie, évidemment, avec un prénom comme ça. Et donc, il va prendre ces trois histoires, il va les tisser ensemble, et à travers ces trois histoires, il va trouver la solution au problème de René. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, on a différentes choses hein, qui émergent des problématiques modernes, par exemple l'émergence de la mère solo, puisque le père, finalement, jusqu'à la fin, il est relativement absent. Donc René, de toute façon, à la limite, elle s'en fiche, elle pense qu'il s'en fiche, etc. Enfin bon, voilà. Puis elle dit même, moi, j'aimerais bien faire un enfant toute seule. Donc là, on est vraiment dans cette problématique de l'émergence de la mère solo, mais qui se referme, puisqu'à la sortie, la clé, c'est quand même qu'il y ait un désir partagé d'enfant. Et donc voilà, ça se referme. La mère solo, elle ne reste pas solo. C'est d'ailleurs ce que le médecin lui dit. On a aussi un dernier parallèle, et je finirai là-dessus, avec le film précédent, donc Le praticien à la femme de 50 ans. On a un champ d'activité et de compétences du médecin, du praticien, qui s'élargit. Donc face à ces femmes qui sont complètement perdues dans leur complexité, ces compétences vont vraiment se complexifier. C'est-à-dire, non seulement elles sont complexes, mais lui, il va avoir un travail très, très complexe. Et par rapport à ça, il se remet en cause, etc. Mais finalement, les femmes, leur image, elle ne change pas vraiment. C'est-à-dire, si c'est plus des objets de médecine comme dans les films des années 60, ce sont maintenant des personnages, hein, et René, c'est vraiment l'archétype de ce personnage qui a une vie, etc. Mais le centre de leur vie, ça reste quand même cette spécificité féminine. Alors, pour effectivement la femme infertile, elle va s'accomplir dans la maternité. Pour la femme ménopausée, elle va s'accomplir dans tout un ensemble de petits divertissements. Mais ça ne va pas être, voilà, ça n'ouvre pas sur quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la vie publique, ou qui pourrait, où il pourrait y avoir un enjeu. Voilà, et je vous remercie, je suis désolée, voilà, je vous mets la dernière petite slide parce que je ne peux pas m'en empêcher. Donc, je vous remercie pour votre attention, et du coup, je ne passerai pas mes morceaux de film. Non, bon, tant pis.
Oui, alors...
Merci.
Questions fusées. Alors,
François. Et en fait, c'est un film sur l'infertilité, mais qui traite de la résolution de ce problème-là. Merci. C'est pas un film sur
l'infertilité qui traite réellement l'infertilité.
C'est pas du tout un film médical. C'est-à-dire, il y a quelques petites données techniques, comme, ben, comme on le voit sur la dernière, là, lui demande sa température, ses courbes de température. Tout au début, elle dit, voilà, j'étais voir un autre praticien, il m'a dit que j'avais un trouble d'ovulation. C'est à peu près tout ce qu'il y a de technique. Si à un moment donné, il reçoit le couple, puis il dit, oui, quand même, voilà, il y a un problème de spermatozoïdes qui ne sont pas trop rapides, en plus du problème d'ovulation, mais ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire, tout le film et la résolution du problème, ce n'est pas médical, c'est psychologique.
Ça, d'accord, mais en fait, sur les trois femmes qu'on suit, il n'y en a pas une seule qui n'arrive vraiment pas à avoir d'enfant.
Non, même celle pour laquelle c'est le plus difficile, voilà. Elle a un enfant.
Finalement, le problème se résout et finalement, ce n'est pas un problème, c'est uniquement psychologique, voilà, c'est de la somatisation.
Bon, je n'irai pas jusque-là parce que je ne sais pas. Alors justement, bon, j'étais assez intéressée tout à l'heure d'entendre M. Duvivier qui parlait justement du laboratoire de Lagrange, qui était très intéressé par les aspects psychosomatiques. Donc ça, c'est un film sans dose. Mais le précédent, celui de la femme de 50 ans, c'est un film de Lagrange. Et la dimension psychologique, psychosomatique, justement, est énorme. C'est-à-dire, on se demande si ces pauvres femmes, leur problème, c'est vraiment la ménopause, ou si c'est que les enfants partent de la maison, etc. C'est beaucoup plus psychologique par rapport à leur vécu d'événements compliqués dans leur vie. Oui, les enfants qui quittent le nid, l'une d'entre elles a perdu son mari, etc., etc. Et tout ça, c'est rapporté à une nébuleuse ménopause. Et là, c'est vraiment de Lagrange. Donc, c'est vraiment dommage qu'il soit plus là. Quoi. Non, il n'y en a aucune qui n'arrive pas, même s'il y en a une qui abandonne son enfant, mais toutes elles arrivent à tomber enceinte. Ouais.
Un enfant va naître. Ouais. C'est Nestlé, c'est ça ?
Oui, c'est Nestlé.
Donc, tu as dit que ça s'adressait peut-être aux femmes. Est-ce que ça s'adresse aux femmes ou est-ce que ça s'adresse aux soignantes, infirmières, aides-soignantes au sens général, un peu comme, je pense, au film de Jean-Benoît Lévy, bien antérieur, qui s'appelle La future maman, et qui s'adressait aux soignantes, quoi, aux personnes qui participaient à l'accouchement et qui procédaient du même style, c'est-à-dire contre les préjugés, quelles sont les bonnes pratiques, etc. Tu n'as pas d'indication dans le contenu du film
Pour signifier ça ? J'arrive pas à décider. C'est clair que c'est un film... moi, je pense que c'est un film qui, de toute façon, devait être projeté aux sages-femmes. Je suis quasi sûre, puisqu'on a toutes les techniques, justement, de relaxation qui sont mises en scène. Et je me demande si ce film... Voilà, ça, le deuxième truc, c'est une question. Je me demande si ce film n'a pas été projeté, voilà, justement, dans ces moments, au début de cette préparation à l'accouchement, parce que qui dure quand même très longtemps, aux jeunes mères. Je ne sais pas.
Donc, il y a vraiment un lien avec le film de Benoît Lévy, La future maman, qui raconte un peu la même histoire, qui s'adressait effectivement aux sages-femmes, à la formation des sages-femmes, à l'école de puériculture. Mais qui a été diffusé au-delà de ce cadre dans des salles de cinéma. Là, on voit pas, le contexte dans les années 70,
je crois. 70-80, on ne sait pas trop. Bon, je ne sais pas non plus où on en était parce qu'il y a des images. Bon, les deux films, Prélude à la maternité et puis Un enfant va naître, se terminent par des images d'accouchement. Donc, je ne sais pas jusqu'où, à l'époque, on pouvait montrer des images d'accouchement. Bon, c'est des accouchements, alors nickel, très propres, très rapides, sans souci. Bon, c'est sûr, elles étaient relaxées, etc. Donc ça se passait très bien. Mais voilà, je ne sais pas jusqu'où, justement, à l'époque, on pouvait... Est-ce qu'on était encore dans le tabou ou pas ?
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est la récurrence des thèmes, oui. La présentation des thèmes sur une longue période. Visiblement, il y a nécessité, oui, de faire des films comme ça, de les rénover, et donc d'avoir un autre point de vue, d'autres réalisateurs, la couleur, des témoignages directs, alors que dans Benoît Lévy, c'était fictionnalisé, sans l'être tout à fait. Voilà. Donc on est vraiment dans une continuité, et c'est globalement ce qu'étudie Medfilm.
Oui, et c'est ça. Ouais, elle peut même l'avoir avant, bon, parce que moi j'avais travaillé sur les revues féminines où on a de la vulgarisation médicale, on a déjà justement la décrédibilisation, et tout ça c'est effectivement déjà là, quoi. Bon. Avec des choses qui ensuite sont décrédibilisées dans des films comme ça, des solutions effectivement au fur et à mesure qu'on avance dans la connaissance non seulement du corps mais aussi les modes, parce qu'il y a des modes. Bon, voilà. Et aussi toutes ces images de femmes dans la piscine, etc. C'était très à la mode. Maintenant, on les montre presque plus, tellement ça devient banal. C'était très à la mode à l'époque de les montrer. Ouais.
Les années 70, pas, ça a eu d'autres films, ou si dans ce film, il parle aussi justement de la question des laits infantiles, parce que Nestlé, c'était quand même. Parce qu'il y a eu quand même le boycott international entre 77 et 84.
Ouais, c'est-à-dire juste au moment.
Enfin, c'est un peu cette période-là, en tout cas, où vraiment Nestlé a été sur la sellette pendant, oui, au niveau de la communauté internationale en entier par rapport à ce qui se passait dans les pays du Sud, parce que c'était le commerçant majeur. Dans 50% du marché, c'était Nestlé qui s'en occupait dans les pays du Sud. Puis c'est toujours actuellement le cas. Hein, après Jean Ziegler, il y a toujours autant de problèmes aujourd'hui. Mais...
Moi, je me suis posé la question quand j'ai vu que les films étaient. Les deux, en plus, étaient commandités par Nestlé. Je me suis dit, ah, on va parler effectivement de lait, etc. Et puis justement, à cette période, il y en a au moins un des deux qui tombe dans la période. Et non, pas du tout. J'avais fait le rapprochement aussi avec les packs qu'on donnait jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça aux jeunes mères, où il y a des produits Nestlé, des produits Pampers, des produits machin. Effectivement, on est dans ce truc où une vie commence, hein, toutes les étapes de la vie de l'enfant. Ce qu'on a vu, ce qu'on voit dans ce film-là, c'est avant les étapes de la vie d'une enfant. Donc on le prépare et c'est Nestlé qui le prépare. Mais non. Alors peut-être qu'effectivement, on est dans la problématique que soulignait Vivier ce matin. On ne fait pas de publicité dans les films.
On est tout à fait dans un produit anodin, le lait en l'occurrence, quasi anodin, il n'est pas présent dans le film. Et on a la confirmation de ce qu'il dit, jamais de publicité. C'est quand même assez notable. Pour l'instant, on a du mal à trouver un film où il y a effectivement un clin d'œil publicitaire.
Au contraire, même au début, alors c'est dans Prélude à la maternité, on a ces photos donc en noir et blanc très très esthétiques, et on a des photos d'allaitement, mais d'allaitement quoi.
Naturel.
Ouais. Donc c'est tout à fait. Maintenant j'ai compris, en l'écoutant ce matin, j'ai compris pourquoi. Parce que j'avais la même idée au départ, même hypothèse, et puis non.